Vous avez tous répondu à la question « Tu t'accroches à quoi ?» Ça commence par quoi vos réponses, Thierry Acarivel ?
Alors, moi j'ai marqué des trucs physiques, qui peuvent être aussi des choses un peu symboliques. Parce que ça, c'est un peu sur ça que nous on travaille sur notre spectacle. J'ai mis les poignées de porte. J'ai l'impression que c'est ça qu'on s'accroche toujours à une poignée de porte. Et j'ai l'impression qu'on cherche plein de... En tout cas, je cherche plein de portes nouvelles à ouvrir, qui ouvraient sur des espaces hyper, hyper nouveaux et des portes derrière lesquelles je ne sais pas trop ce qui se passe. Ça, c'est pas mal. Je m'accroche aux mains. Alors ça, il n'y a pas de symbolique derrière. C'est vrai que j'aime bien m'accrocher aux mains des gens. Et je m'accroche... Tu t'accroches à quoi ? Tu t'accroches... aux images, et j'ai l'impression que les images impriment des fois des choses trop fortes et des choses à la fois super belles, mais j'ai l'impression que c'est toujours difficile de faire la part des choses et de pas rester bloqué avec certaines images et du coup de les lâcher aussi et de tomber.
Vima Laponce, vous avez écrit et vous êtes parti en courant.
Ah oui, non, parce que j'avais pas compris que ça commençait, en fait, du coup, je suis partie me remettre à ma place, mais en fait, ma place était pas là où je pensais qu'elle était. Du coup, bah, c'était ici. Moi, j'ai écrit des choses. D'ailleurs, je vais commencer par une que j'ai pas écrit, mais du coup, je m'accroche à mon partenaire, mais je crois que c'est un peu ce que tu voulais dire quand tu disais je m'accroche à la main, non? Un truc de, parce que du coup, je rebondis sur l'autre truc où j'ai mis aux étymologies foireuses, continuer là-dedans. Dans un registre douteux, je fais un cocktail entre les deux, parce que j'ai lu que partenaire, genre l'origine du mot, c'était celui qui tient, ou faire partie de quelqu'un, donc finalement s'accrocher à la main de mon partenaire, ça serait un peu ça. J'ai mis à l'idée de crever de joie, comme l'a dit Xavier. Xavier, je connais pas son nom de famille, mais c'est le musicien de Winter Family, et il a dit ça, et j'aime bien. Au noyau d'avocat parce que c'est beau quand ils explosent pour pousser en plein hiver. Et à la drogue, ça je vais pas étayer. Et puis à la surimpression à tous les niveaux, qui se passe plein de choses en même temps et ça me plaît. Voilà.
Charlotte Abramoff, tu t'accroches à quoi?
Je m'accroche d'abord à l'affection qu'on me donne, parce que je pense que l'affection, c'est ça qui permet aussi d'avancer et de créer, et d'être dans un monde où il y a une espèce de filet de sécurité. Je m'accroche à l'intégrité de mes projets, parce que je veux les faire jusqu'au bout et pouvoir défendre mes idées, même si ça me prend des mois ou des années, et que ça me prend beaucoup d'énergie, je m'implique vraiment là-dessus, et sinon je m'accroche aux pâtes, parce que j'adore les pâtes.
Les clowns, Fellini, 1970.
Esilarante. Grande classe esilarante e spasmodico, può ancora divertire. Certo, il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più. I teatri trasformati in piste. Gli scenari luminosi e ingenui. La credulità infantile del pubblico non esistono più. Restano delle tracce sottili e struggenti negli attuali circhi ed è questa la nostra ricerca.
Il est 23h et la vie est en dents de scie. Ça irait mieux si les sentiments intérieurs se montraient, s'ils sortaient à vue et en plein jour, s'ils acceptaient qu'on rit d'eux. Parfois, les mots sont en trop. On voudrait se taire et pourtant continuer à dire. Il nous faut des images. La vie est en dents de scie, c'est Charlotte Abramoff qui le dit. Son premier livre de photographie s'appelle « Maurice, tristesse et rigolade ». Pendant 7 ans, elle suit son père Maurice, qui après un cancer et un coma, devra tout réapprendre. Celui qui était un médecin-chercheur redevient enfant. Son monde est parallèle, intérieur. Sa fille Charlotte y aura accès avec l'appareil photo, petit à petit. Elle apprivoise ce nouveau père et retrouve l'ancien. Elle imagine un conte, des décors, un royaume dont il porte la couronne. Il fait le clown et il revit. Elle donne une forme aux émotions. Maurice se retrouve dans un immense costume blanc trop grand pour lui, ou alors perdu au milieu de la salle des horloges. Au début du livre, il y a la citation « Le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne », écrivait André Malraux dans ses intimes mémoires. « Grande », c'est le titre du spectacle revu de Vima Laponce et Thiriac Arrivel. Le duo n'a pas besoin de la parole pour dérouler les images d'un couple qui s'aime ou se cherche ou se déchire. Il y a des numéros, des équilibres à conserver, du danger, il y avait eu une chute, mais la fiction, ça fait relever tous les corps. « Grande », c'est comme un poème à compléter chez soi, disent-ils. Face au poids des objets, il réinvente la légèreté. Voilà une émission en forme de poème à compléter chez vous. La vie est en dents de scie, alors comme Maurice, on colle sans transition, tristesse à rigolade. Il y aura la photographe et réalisatrice Charlotte Abramoff. Son livre « Maurice, tristesse et rigolade » est sorti en novembre dernier aux éditions Fichaille. Il y aura le duo d'équilibristes Vima Laponce et Thiriac Arrivel qui sortent un album issu de leur spectacle « Grande ». Le disque s'appelle « Victoire Chose » et « Grande » est en tournée au Théâtre du Champfleury. Ce sera à La Réunion les 29 et 30 mars. En studio, il y aura ce soir leur ami Lou Gangloff de Danse Musique Rhône-Alpes pour 2 morceaux en direct et il sera en concert le 19 avril au Trabendo à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence avec un peu de surréalisme.
René Magritte parle.
J'ai subi beaucoup d'influence avant d'être ce qu'on pourrait appeler un peintre surréaliste. J'ai subi l'influence des cubistes, par exemple, des futuristes, de l'art abstrait, des peintres abstraits. Mais tout cela ne préparait que ce moment où je pourrais peindre ce que j'appelle mon premier tableau. Et il se fait que ce premier tableau correspondait à de la peinture surréaliste. C'était un tableau peint en 1926 qui s'appelait « Le jockey perdu ». C'est alors que je suis entré en rapport avec des surréalistes, en effet, avec Breton notamment et Éluard. Et à Bruxelles, il y avait des écrivains peu connus ici comme Paul Nouget. Le surréalisme représentait pour moi ce qu'il fallait penser.
Donc, votre peinture est par excellence surréaliste.
En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie.
Charlotte Abramoff, qu'est-ce que vous devez à Magritte ou au surréaliste en général? Il parlait de Paul Nouget, le Belge.
Oui, bah déjà, il m'inspire beaucoup parce qu'il me plaise déjà tout simplement visuellement. Et après, le pont en fait que j'ai fait entre mon père et Magritte, c'était que en fait, Magritte fait une peinture très réaliste qui nous montre des objets qu'on connaît tous, le ciel, les fenêtres, et qui nous invite à voir les choses sous un autre regard inattendu, et donc qui bouscule un peu les représentations et les réalités. Et en fait, cet étonnement qu'on peut avoir devant une peinture de Magritte, c'est un peu l'étonnement que je retrouvais face à mon père, en fait, et face à des jeux de mots qu'il pouvait faire ou des réactions qu'il avait, face au fait que les médecins nous avaient dit qu'après son coma, rien n'était garanti pour qu'il puisse se rétablir et que même on pouvait craindre le pire. Mais au final, il est allé mieux avec les années, malgré qu'il vieillissait. Et c'était un peu cette espèce d'inattendu constant et de rebondissement qui m'ont été inspirés aussi par le surréalisme et par l'expérience qu'on vivait. Et puis voilà, dans le surréalisme belge, il y a aussi un souci de la recherche que je trouvais intéressant, puisque du coup j'ai fait un peu de mon père un sujet d'étude, et ce sujet d'étude photographique m'a permis de vivre ma relation avec lui et ma relation à sa maladie de manière beaucoup plus sereine, et de profiter en fait de chaque minute, de chaque parole, de chaque instant, et de vivre tout de manière très intense.
Et dans le livre Maurice, Tristesse et Rigolade, qui est un très gros beau livre, il y a une partie presque plus documentaire au début, où vous racontez sa vie d'avant aussi, la maladie, le cancer et le coma. Et puis ensuite, il y a une partie plus surréaliste où vous allez vous mettre en scène, où vous allez le mettre en scène. Mais même avant cet événement, vous dites l'absurde et le surréalisme, c'est quelque chose qui nous a toujours liés, et on sent que ça faisait partie aussi de sa personnalité.
Oui, complètement. Après, on a jamais eu l'occasion de parler de surréalisme à proprement parler ensemble, puisque moi j'avais 17 ans et lui 79 quand il est tombé malade, et qu'il y a vraiment eu un avant et un après le coma. Mais oui, il a toujours eu beaucoup d'humour et de poésie et d'intelligence.
Vous décrivez des petites choses comme il m'appelait la parenthèse parce que je me tenais jamais droite.
Oui, en effet, vous pouvez le constater, je me tiens pas droite. Et du coup, pour me rectifier, il m'appelait la parenthèse. Du coup, pour juste que j'ai l'image directement en tête et que je me tienne plus droite. Ou quand j'étais à l'école, il m'envoyait des messages pour me demander où j'en étais. Donc il me disait où t'en es. Mais au lieu d'écrire où t'en es comme ça s'écrit, il écrivait où t'en. O-U-T-A-N-G, et plus loin, N-E-Z. Donc il faisait des jeux de mots complètement farfelus, mais qui étaient à chaque fois intéressants. Et il y avait toujours une recherche intellectuelle, absurde, poétique, à son insu, en fait.
Voilà. J'ai devant les yeux ce tableau de Magritte où justement on est dans les nuages, dans le ciel, et il y a la porte entrouverte sur le ciel et les nuages. Ça me fait aussi penser aux poignées de porte auxquelles vous vous accrochez, Tyriac Arrivel. Est-ce que vous, on parlera de Grande, votre spectacle, tout à l'heure, mais est-ce que le surréalisme, c'est quelque chose qui vous a nourri à un moment donné, Tyriac Arrivel et Vima Laponce ?
Non, ce que tu disais, je trouve ça intéressant, le rapport à des formes connues, mm-hmm. et qui sont aussi employées dans des autres manières de d'écrire ou de présentation. Et ça, en ça, moi j'ai l'impression que ça c'est toujours hyper... Enfin, je me reconnais là-dedans parce que ça provoque aussi une autre pensée avec par rapport à l'image qu'on peut en fait figer tout objet, toute représentation, et que j'ai l'impression que c'est toujours hyper joyeux de pouvoir se dire putain, en fait ça peut être complètement différent. La perception qu'on a d'une petite chose, aussi simple que ce soit un objet, une porte, ou nous, on travaille une chaise ou un truc comme ça, quoi.
Mais ouais, je pense qu'il y a Picabien, nous, qui nous a pas mal plu avec ses papiers en tête, où il se dit, je crois qu'il est docteur, c'est pas, il est docteur sur un yacht et il consulte entre 20h et 23h avec des cocktails. Et il y avait pas mal de choses là-dessus. Et puis, ce que de toute façon, vous avez dit tout à l'heure, qui est de Robert Filloux, les poèmes à compléter chez soi. Mais on a peut-être lu Zara par accident.
Charlotte Abramoff, quand vous prenez une des premières photos studio de votre père, qui est dans le livre, avant la maladie, mm-hmm. c'est déjà une séance photo improvisée, parce qu'elle n'était pas prévue. Normalement, vous attendiez quelqu'un d'autre, mais lui était là. La personne n'est pas venue, donc il s'est prêté au jeu. Et oui. il est déjà en train de se mettre en scène et de jouer.
Oui.
Et de créer des situations.
En fait, il a toujours été aimé être pris en photo. Donc, il était médecin, chercheur, professeur d'université, directeur de laboratoire. Enfin, il a vraiment eu une très belle carrière médicale. Mais c'est vrai que ma maman, elle prenait beaucoup de photos de moi et de lui à titre de photos de famille. Mais c'est que par après que je me suis rendu compte que ces photos avaient une poésie particulière. Donc, j'ai la chance d'avoir de très belles photos de famille. Et mon père, oui, a toujours aimé jouer avec ce côté comédien, acteur. Ça rejoint aussi son humour et son décalage. Et du coup, il a toujours posé de manière très naturelle. Ce qui fait que d'ailleurs, par après, donc faut savoir que ce coma lui a donc laissé des séquelles neurologiques qui ont fait qu'il est devenu dépendant et qu'il n'était pas toujours conscient de tout ce qui se passait. Et donc il y avait au sein d'une même heure parfois des moments où il avait le regard vif, il était présent, il comprenait la situation, il était capable de réciter des poèmes, d'avoir une conversation, enfin quelque chose de conscient et de présent, et d'autres moments dans la même heure où il était le regard perdu, incapable de comprendre la situation ni de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, malgré cette absence et cette présence qui était en constant jeu de ping-pong, dès que je sortais l'appareil photo, ce côté comédien revenait directement. C'est-à-dire même s'il était un peu patraque, et dès qu'il y avait l'appareil photo, paf, il se reconnectait, il commençait à faire des grimaces, à se poser, à jouer. Et donc même s'il n'était pas toujours capable de parler avec des mots, j'arrivais à créer un nouveau truc de communication avec lui, avec l'appareil photo en fait. Et ça l'animait véritablement.
Et à partir de quand ça s'est transformé pour vous? Parce qu'au départ, vous dites, je prenais des photos par instinct, par réflexe, et puis il y a eu plusieurs années, tout ça c'est sur plusieurs années, donc les premières années, il est un peu plus perdu, puis après, il retrouve aussi des choses petit à petit.
Oui.
Et à partir de quel moment la photo, ça devient vraiment un espace à vous deux, et un conte, une mise en scène, une autre histoire que vous allez raconter?
C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la photo à 13 ans, et du coup, à 17 ans, je faisais déjà beaucoup de photos. Mais les photos que je faisais de lui, elles étaient hyper instinctives. J'avais aucune projection dans le futur, ni projection artistique, parce que les choses étaient super douloureuses, parce que la situation était complexe, triste. Et du coup, c'était des photos que je gardais dans mes tiroirs, que je montrais pas, mais je les faisais sans trop savoir pourquoi je les faisais. Je pense que c'était une manière de me cacher derrière l'appareil photo, une manière de me dire « ok, c'est vraiment en train de se passer ». Et en fait, il a été en convalescence pendant 3 ans où il était vraiment mutique, très fatigué, très endormi, où il fallait l'aider pour tout. Et petit à petit, il a commencé à se stabiliser et à se réexprimer. Et on a vraiment vu un mieux arriver, notamment lors d'un séjour en été 2014 dans le sud de la France, où avec le soleil, les vacances, d'un coup, il s'est mis à revivre. Et en fait, il y a eu une espèce de combo entre le fait qu'il aille mieux... le fait que moi j'avais déménagé de la Belgique pour arriver à Paris faire mes études de photographie, donc forcément la distance physique ça m'a permis aussi une distance mentale et mon intérêt pour la photographie, le surréalisme etc. qui prenait de plus en plus de place. Et à un moment donné il est venu me voir un jour à Paris pour justement je pense que c'était pour ma remise de diplôme des Gobelins. Et on a fait quelques photos en studio où je me suis dit, hey, je vais tester, qu'est-ce que ça donne avec des torches et tout ça, comment il va réagir. Et en fait, il était mieux qu'un mannequin professionnel, il changeait de pose à chaque clic, il était à fond dedans. Vraiment, c'était un grand exercice de comédien qu'il avait adoré.
Il est très clown aussi.
Ouais, complètement. Il a un côté très autodérision, très gag. Il disait toujours, j'ai envie d'être un vieillard amusé et amusant. Et du coup, cette séance photo, je me suis dit, mais en fait, j'ai une histoire de dingue à raconter. Et autant je peux la raconter de diverses manières, avec des archives, avec du documentaire. Et puisque lui était dans un monde un peu parallèle, je me suis dit, je vais recréer ce monde parallèle en images. Et donc, j'ai réfléchi à des décors avec des objets métaphoriques, symboliques, qui rappelaient son parcours et qui avaient justement des métaphores... Sur la vie, la conscience, l'inconscient, le fait de perdre ses repères ou de réapprendre à parler, toutes ces choses-là. Et où en fait il serait le héros de ce conte, inspiré que de lui et que pour lui en fait.
Ton père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa bravoure et sa haute taille, tenait dans son bec un fromage. Je l'ai bien mélangé avec une vape de La Fontaine.
Et alors, t'as fait quoi dans ta vie?
Quoi ?
Tu as fait quoi comme métier dans ta vie ?
Attendre qu'on m'enlève l'appendice.
Et du coup, là, je parle de ton histoire.
Et ça, c'est qui, ça ?
Bah, c'est toi.
Mais dis, j'ai l'air d'un grand malade. Là.
Mais t'es peut-être un grand malade.
Hein ?
T'as été un grand malade.
Oui, mais c'est hier, ça ?
Ah non, non, ça, c'était il y a 5 ans.
Il y a combien ?
Il y a 5 ans.
C'est pas vrai.
Bah si.
Ma fille Charlotte. Est-ce que j'ai une fille Charlotte?
Merci, c'est gentil.
Fille. Oui, j'ai dit que je... Non seulement je précède ma fille Charlotte dans toutes les conceptions d'événements passés et futurs, mais je la suis. Je la suis. Elle prend la tête du cheminement.
C'est beau ce que tu dis.
Je crois, oui.
C'était la voix de Maurice à travers des petites vidéos que vous aviez postées, Charlotte Abramoff, pendant le projet, pour le développer, quand vous étiez en train d'y travailler. Comment vous décririez le royaume que vous avez imaginé, qui fait partie, c'est un des chapitres du conte que vous avez créé avec lui ?
Donc c'est la photo de couverture. Je m'excuse, je suis un peu émue parce que mon papa est parti il y a quelques mois, mais je vais me reprendre. Donc c'est une photo en fait qui est totalement inspirée de l'Empire des Lumières de Magritte. Et en fait ce royaume c'était un peu... parce que en fait son cycle veille-sommeil avait vachement changé. C'est-à-dire que la journée il était capable d'être complètement endormi. Et la nuit d'un coup il se levait, il tapait la causette, il ouvrait des magazines de politique. Il allait dans la cuisine choper des petits biscuits, tout ça.
Il pouvait faire des choses d'enfant aussi Enfin, des petites bêtises comme mettre le chauffage très très fort,
ouais.
se faire griller des...
Ouais,
du
c'est
pain.
Ça, il mettait le grille-pain à fond. Un jour, ma mère est rentrée et bon, ça, c'était pas la nuit pour le coup, mais il avait voulu se faire gagner une tartine et en fait, il avait mis une poêle sur une casserole, la tartine dans la poêle, le tout dans le four. Donc, elle est arrivée heureusement au bon moment. Mais pour revenir au royaume, c'était donc le fait que, quelque part, il avait créé donc son propre monde, son propre rythme. Et sur cette image, je l'ai représenté, du coup, avec une couette, en fait, sur les épaules, comme une espèce de manteau royal, parce qu'il se trimballait toujours avec une couverture sur les épaules quand il vagabondait dans l'appartement la nuit. Et en fait, ces nuages et ce ciel de jour, ça montrait aussi la liberté, l'évasion de sa pensée. Et en même temps, on sent qu'on est dans une pièce. Donc, il y a quand même une dialectique entre l'enfermement et la liberté. L'enfermement, forcément, de la dépendance et la liberté d'au final, son cerveau qui a été abîmé et qui fait qu'il n'a pas toujours non plus, qu'il est moins conventionné, quelque part. Et puis, pour moi, ça représentait aussi toute cette dialectique entre la vie, la mort, la conscience et l'inconscient, le rêve, le sommeil, et en fait, les ampoules qui rôdent sur le lit. Pour moi, c'était un peu comme la représentation de ses pensées ou de ses connexions neurologiques ou de ses idées. Et du coup, ce royaume, c'était vraiment le sien. Et pour moi, c'était important que ça devienne la photo de couverture pour qu'on comprenne aussi que c'est pas juste un biopic sur mon père et que c'était aussi quelque chose où je voulais absolument amener de la magie, de la poésie et de la joie dans les thématiques dures que sont la maladie et la vieillesse dont on parle jamais en fait.
Ce qui traverse tout ça, c'est l'humour de Maurice dont on parlait tout à l'heure. Comment vous décririez cet humour et la façon... Et puis le livre, ça finit par « Na ».
Ouais. au-delà de l'humour, c'est sa force de vie, parce qu'au final, il a quand même traversé la Shoah, il a été enfant caché, il y a toute une partie de sa famille qui est morte à Auschwitz, et il a toujours avancé. Après, il a donné un sens à sa vie pour les autres et pour la recherche, pour la médecine, et puis même à travers sa maladie, en fait, parce qu'il était quand même tout petit, tout gringalet, tout faible, et il a quand même survécu et a récupéré des tas de choses qu'on pensait jamais récupérer. Donc c'était plus le fait qu'en fait, avec son humour, qui est une de ses armes, son instinct de survie était vraiment incroyable, quoi. Donc c'est ça aussi qui traverse tout le livre.
Au début, il y a des images de son enfance. Et cette enfance-là, elle est résumée dans le mot de passe du code Wi-Fi de la maison.
Oui, en fait, donc son nom, c'est Maurice Abramoff, et son nom d'enfant caché, c'était Maurice Allard. Donc en fait, ses cousines, son oncle, sa tante, dont il était très proche, ses cousines étaient comme ses sœurs. Quand il avait 10 ans, en fait, ils ont été raflés du jour au lendemain dans la rafle d'Anvers en 1942. Et lui, par un hasard, se trouvait pas au même endroit, alors qu'il aurait pu y être. Je l'explique plus longuement dans le livre. Et du coup, ce matin-là, c'est une dame inconnue qui vient le chercher et qui lui dit « Maintenant, tu t'appelles Maurice Allard ». Et voilà, c'est aussi intégré à 10 ans le fait que ne pas dire son vrai nom, ça peut vraiment juste le tuer. Enfin, l'inverse plutôt, dire son vrai nom, ça peut le tuer. Et puis, voilà, dans le livre, il y a aussi un extrait d'un de ses cahiers d'enfants cachés où quand on lit entre les lignes, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, je l'ai vraiment ressenti comme si c'est lisible entre les lignes, en fait. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'était le mot de passe Wi-Fi et je sais pas quelle espèce de...
Le mot de passe, c'était Allard.
Ouais, Allard. Du coup, Maurice Allard et Allard Wi-Fi. Donc, je sais pas quel genre de métaphores psychanalytiques qu'on peut y trouver, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans le fait de conserver cette identité de la guerre, quoi.
C'est lui qui a écrit « Tristesse et rigolade ».
Alors oui, en fait, du coup, une nuit, puisque c'était la nuit qu'il était le plus éveillé, je lui ai montré toute la maquette du livre et j'étais obligée de le faire petit à petit parce que c'était beaucoup pour lui d'émotions. Déjà, toute la partie des archives, c'était quelque chose de très fort pour lui. Et donc, finalement, j'en suis arrivée au compte où c'était mignon parce qu'il commentait chaque photo, il faisait des petites réflexions pour les photos du coma. Il disait « mais j'ai été pris dans un aspirateur ». Enfin, il avait toujours... à la fois, il disait des choses qui étaient pleines d'humour et d'autres qui étaient pleines de sens. Et à la fin, je lui dis « quelle est ta conclusion de l'histoire ?» Et il m'a répondu « tristesse et rigolade », comme ça, de but en blanc avec un petit sourire en coin. Et je me suis dit « waouh, en deux mots tellement simples, il résume vraiment l'histoire et sa vie ». Du coup, après, je lui ai fait écrire sur un papier parce que, pareil, grâce au projet, j'ai trouvé aussi des nouvelles manières de le stimuler. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas forcément posé la question de savoir s'il aimait écrire ou pas. Et jusqu'au moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je mets une feuille et un bic devant lui ? Et du coup, il écrit. C'est pour ça qu'il y a quelques écrits dans le livre, même si ça reste condensé sur quelque chose d'assez petit. Et donc, vu que j'aime beaucoup son écriture manuscrite aussi, c'était hyper important que pour moi, elle soit gravée dans la couverture et que ce soit aussi une manière d'être présent par l'écrit, autre que juste le fait d'être pris en photo dans quelque chose d'un peu plus passif et voilà, qui se réapproprie aussi son histoire.
À propos de tristesse et rigolade et d'émotions superposées, Vima Lapons, c'est vous qui disiez que vous adoriez pleurer et rire en même temps ?
Bah, j'espère que je suis pas la seule, mais peut-être que j'ai dit ça, ouais, une fois, c'est possible, malheureusement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre amie Lou Gangloff, qui est derrière nous en studio, qui attend sagement devant ses machines de jouer?
Bah, on peut vous présenter Lou Gangloff, parce que, premièrement, Lou, c'est lui qui a, pour nous en tout cas, bien voulu dessiner la pochette de notre album, qui est une pochette à coulisses, à tiroir, avec une histoire qui se désintègre et qui s'invente à l'intérieur au fur et à mesure qu'on tire sur la pochette. Et puis Danse Musique Rhône-Alpes, c'est un peu comme si on embarquait sur le paquebot fantôme de La Croisière s'amuse. Donc nous, on était contents, puisqu'on n'était pas capable de jouer à ce qu'on appelle une release party, chose qu'on a découvert, c'est-à-dire la fête de l'album. Quand tu sors un album, tu fais une fête. Et normalement, les vrais musiciens, ils jouent. Donc on a fait jouer des groupes qu'on admire beaucoup, comme Aymat, dont on parlera peut-être tout à l'heure, constitué de Olivier Demeaux et Armel, W. Annie, constitué de Lou Gangloff et Fred Monsigny, et Danse Musique Rhône-Alpes. Voilà.
Lou Gangloff, on est devant beaucoup de machines qui, vous l'avez précisé tout à l'heure, ont toutes votre âge à peu près.
À peu près. Oui, j'utilise des enregistreurs et magnétophones à cassette qui sont synchronisés avec des outils électroniques qui ont eux aussi une bonne trentaine d'années. Et voilà, donc j'utilise un système assez vieux qui consiste à synchroniser les bandes magnétiques avec les instruments MIDI. Voilà.
Donc ça, c'est la petite cassette Pantaloon.
Oui, exactement. Voilà, elles ont tout un nom et une chambre chez moi.
Tomber, c'est se libérer de la gravitation. La chute dite libre est une chute où, si je tombe et que je sors mon trousseau de clés, je tombe avec lui, donc il ne tombe pas, par rapport à moi. Donc, quand la chute est libre, la gravitation est abolie. Mais c'est la cessation de la chute qui fait problème, c'est-à-dire l'impact sur le sol. Alors là, tout change. Et cette physique devient douloureuse. Mais à partir du moment où tout tombe librement, il n'y a plus de gravitation. Donc la gravitation peut être annulée par la chute. Exemple, il existe des expériences d'apesanteur. Et c'est toujours dans les avions qui piquent vers le sol. Ou bien dans l'espace. Mais c'est c'est un autre procédé. On se libère de la gravitation. Pour se libérer de la gravitation, il faut atteindre la vitesse de 11 km par seconde. C'est la vitesse que l'on doit imprimer à tout objet si on veut le satelliser, si on veut faire qu'il ne retombe pas. Ceci dépend de l'astre. Sur le Soleil, c'est plus grand. Et sur la Lune, moins. Parce que la masse de la Lune est plus petite. Et la gravitation est d'autant plus grande que la masse de l'objet est forte et que le rayon de l'objet est petit. Et là, je voudrais évoquer justement les trous noirs. Un trou noir, c'est un objet dont la gravitation est telle que la lumière elle-même ne peut en sortir, puisque la lumière pèse.
Vima Lapounce, Tyriac Arrivel, dans votre spectacle Grande, il y a beaucoup d'équilibre à maintenir, il y a le poids parfois des objets à soulever, il y a des chutes, un jeu avec aussi la gravitation. Il y a aussi, on en a reparlé là parce que vous avez rejoué au 104 à Paris, eu une chute de Tyriac Arrivel il y a quelques mois, de 8 mètres de haut, parce qu'il y a ce toboggan, on dit ça, comment vous l'appelez,
ouais.
D'où vous vous lancez, et puis là il y a eu un problème, et donc malheureusement vous êtes tombé, et miraculeusement tout va bien.
Tout va bien.
Comment vous avez conjuré le sort après cette chute pour revivre à la fois ce moment et puis pouvoir le dépasser?
Bah, je pense qu'on a lu tous les mystères qu'il y avait autour de cette chute. Et en fait, du coup, on sait pourquoi ça s'est produit. Et aussi, comme moi, j'ai rien vu de grave, j'ai juste été tout courbaturé pendant très longtemps. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais j'ai rien eu de grave. Du coup, aussi l'envie de montrer ça était toujours au plus grande. Que le traumatisme. Quoi. Je pense s'il y avait eu un mystère ou quelque chose. Si moi j'avais lâché par exemple, je pense que j'aurais peut-être arrêté. Mais là, c'était une attention de notre part. Je crois que c'était comme si on s'était gouré de texte, quoi. Et en fait, au cirque, c'est un peu chiant de se gourer de texte parce que ça peut être un peu fatal. Mais voilà.
On a aussi recours à l'animisme.
C'est vrai.
Un peu. On a fait des libations. De Rome sur la cuisine, qui c'est un élément du décor, une cuisine Ikea. D'ailleurs, merci Ikea, qui était suffisamment renforcée pour épauler la chute, accompagner la chute de Tyriac. Et du coup, on a mis du rhum dessus, on a versé du rhum, parce qu'à Madagascar aussi, pendant le retournement des morts, par exemple, qu'il y ait une action de retourner les morts, de les déterrer, de les retourner en fait de temps en temps, et ben tu leur donnes des cigarettes, de l'alcool, plein d'objets, des choses avec lesquelles ils peuvent continuer à vivre et à s'amuser en dessous de la terre. Donc inspiré de ça et puis de plein d'autres choses comme ça, on a remercié ces objets là aussi qui nous ont aussi sauvés à un endroit.
Tu t'accroches à quoi? Quoi? Tu t'accroches à quoi?
Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens bon. Tu t'accroches à quoi? Dis, tu tiens pour le bon. Toi tu portes quoi? Dis, tu portes tout ce.
Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches.
C'est un extrait de l'album et du spectacle, grande. La musique, elle est en direct pendant tout le spectacle. Vous la jouez et puis elle s'arrête quand vous faites autre chose et puis elle reprend ensuite. Il y a beaucoup de marches. Comment vous avez composé la musique? Est-ce que c'était exactement en même temps que les numéros, que les actions, que comment ça s'est, tout ça s'est lié?
La musique, les marches, en fait, c'est vraiment une tradition de cirque, d'avoir des marches. Chaque cirque avait vraiment sa marche. Et ça, c'était un truc hyper important dans le cirque plus classique. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé à travailler sur ce spectacle-là, on avait envie de reprendre un peu de cette tradition de la marche. Et puis aussi, parce qu'il y a quelque chose de très héroïque dans le cirque et dans ce qu'on fait, nous, beaucoup moins, mais cette tension entre quelque chose de détournement d'objets très très simple et très quotidien avec quelque chose d'un peu héroïque et quelque chose qui nous plaisait. Et du coup, on a commencé à écrire comme ça plusieurs marches. Et ensuite, quand on a commencé à écrire le spectacle, ces marches se sont arrangées, en effet, se sont faites avec les actions. Et c'est les actions qui nous font quitter les instruments, qui nous font revenir vers les instruments. Et les paroles, par contre, c'est vrai que toutes les paroles qu'on dit, les refrains, les couplets, tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on fait dans le spectacle. C'est pas des paroles, c'est pas des images, quoi. Souvent, c'est vraiment très concret. Et c'est vrai que du coup, la question qu'on posait au début de l'émission, là, tu t'accroches à quoi ? C'est vrai que c'est des choses physiques. Moi, je m'accroche à une porte, comme à un amour, à une chaise, comme à son enfance, à un vêtement, comme à quelqu'un de perdu.
Et vous parliez des paroles qui sont en lien avec les actions, puisque à chaque fois les numéros s'annoncent et vous dites en effet souvent ce que vous faites. Et puis en même temps, tous ces mots, ils deviennent très métaphoriques très vite. Je retombe, ça peut être je retombe en enfance, je tiens à quelqu'un.
Bah ouais, je crois qu'au fur et à mesure avec le temps, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on tourne, je suis toujours... étonnée de voir qu'en fait ce qu'on a juste fait c'était un espèce de déchiffrage de notre inconscient quoi. Et au départ on avait des envies qui n'étaient pas forcément liées à un sens et puis ou alors des choses de récupération d'objets où tout d'un coup il te faut absolument une colonne dorique en mousse, c'est comme ça. Et du coup il y avait à la fois une volonté de sens. Enfin, une volonté de sens, comme tout le monde a des questions obsédantes, et puis en même temps, après, trouver, dénicher et subir des objets qui, tout d'un coup, on commence à faire une espèce de famille autour de nous. Et de ça, en fait, appliquer une grille de déchiffrage qui fait que, tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, là, je porte des choses sur moi, des choses lourdes. Je les mets en relation avec le fait de parler, avec des jeux de mots ultra foireux et en même temps étymologiquement qui posent des questions à la fois liées à la philosophie, mais à l'enfance aussi. Et du coup, ça, c'est le cirque, les questions existentielles, pourquoi je marche, pourquoi je tombe. Et du coup, c'était en fait essayer de, autour de tout ça, essayer de tisser les liens d'une écriture qui permet de la mettre devant nous. De l'offrir dans sa fragmentation et dans son désordre, mais extrêmement après nous de la numéroter comme un espèce d'herbier comme ça et d'indiquer un sens possible en fait, comme je sais pas, un trajet sur une carte sur le territoire des enfants perdus de Peter Pan. J'arrête cette phrase immédiatement. Voilà.
En se questionnant sur notre pratique qui est très enfin, une pratique quotidienne de cirque, par exemple, et en posant des questions sur les verbes d'action, de ce que c'était porter, et on a toujours fait des espèces d'analogies et de ressemblances un peu cachées entre les choses, en se disant est-ce qu'il y a un sens entre le fait d'essuyer une cuisine et d'essuyer ses larmes, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en fait, se recoupe? Et pourquoi pas? Après, c'est pas forcément quelque chose de très... évident, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de pareil.
Et pourquoi, Vilma Lapons, vous n'étiez pas forcément très heureuse au conservatoire et que c'est justement peut-être l'empêchement ou le manque de paroles qui vous permettait de d'écrire?
Ouais, je pense pas que des mots. Parce que je pense que j'aime bien, moi, dans le cirque qu'il existe depuis les années 80, on va dire, qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas quelque chose qui prédomine. En fait, tout est outil à dire et ta grammaire, tu l'as fait toi-même et la parole n'est pas l'apanage du théâtre forcément. Du coup, cet endroit-là, en fait, je pense, me manquait, moi, dans le théâtre. Mais en plus, c'est faux parce qu'il y a plein de formes de théâtre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, ouais, de l'ordre de suer, de l'ordre aussi de suer vraiment, de donner quelque chose de toi, de perdre quelque chose de toi pour donner quelque chose. Il y a aussi quelque chose de pouvoir écrire, en fait. Des autobiographies patinées aussi. Je pense que le spectacle qu'on a fait, il est vraiment fait aussi de beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 2 ans et demi où on l'a écrit. Sauf que après, on fait un travail de camouflage autour, en fait, pour en redonner des espèces de vignettes comme ça, avec un gros flash. Du coup, on arrive sur le cliché et pour éviter qu'il dure trop longtemps, le cliché, on le balaye très vite pour que ça passe très vite et pouvoir dire plein de choses, en fait, en disant toujours qu'on a échoué à dire la chose d'avant. Et c'est cet échec à dire pendant 2 heures qui permet peut-être de dire la phrase finale qui est tout le spectacle, on va dire.
Tous les chemins mènent à Rome. En est-il un qui n'irait pas? En est-il un qui échappa? C'est celui-là que je prendrai. C'est un chemin fait de violence qui au mensonge fait insolence. Il est des fous qui disent vrai. Les jours passés plus ne reviennent. En est-il un qui reviendra? Un jour plus long que tous les autres.
C'est vrai que les paroles, c'est de votre mère, Vima Laponce?
Ouais, c'est ma maman qui a écrit les paroles et qui a sorti un 45 tours quand elle avait 18 ans.
J'ai apporté une image qui est une autre photographie de vous, Charlotte Abramoff, et qui me faisait penser un tout petit peu à l'univers de Vima Laponce et Thierry Carivel. Est-ce que vous pourriez la décrire?
Oui.
Parce que vous avez pas mal travaillé autour des corps et
oui,
du corps
complètement.
Féminin.
Pour cette photo que vous me montrez là, donc c'est une jeune femme qui fait le poirier avec une jupe en fait à l'envers et ce qui inverse un peu le corps normal quoi. C'est une photo qui s'appelle Équilibre instable et que j'avais faite encore à l'époque des Gobelins en 2014. Et c'était un peu dans mes expérimentations justement autour du corps qui a continué d'évoluer par après, même parfois avec des photos plus abstraites. Et en fait, ce que j'aime bien rechercher dans le rapport au corps, c'est la curiosité, c'est le jeu, c'est le fait de presque rire de son corps et des improbabilités. Et en fait, d'arrêter, en tout cas pour les femmes, de toujours se mettre dans ce rapport du regard de l'homme ou du regard de l'autre et à apprendre à rire avec son corps, en fait.
Ça fait penser à une des images du striptease, Vima Laponce, cette image de Charlotte Abramoff.
Effectivement, je sais pas, je trouve qu'on est plus beau quand on est dans l'action, en tout cas nu, que posant. Après, c'est pas tout le temps vrai, mais moi je trouve qu'il y a plus d'érotisme dans la joie et dans une certaine forme d'humour que dans un truc, on va dire, sérieux, je sais pas. Question pour un champion du sexe. Je sais pas trop ce que je dis en fait là, mais je l'ai dit.
Alors, on va méditer pendant un nouveau morceau de danse musique Rhône-Alpes.
Ouais.
Avec un nouveau morceau qui s'appelle Monseigneur Pantaloon.
C'est un peu un goûter chez Satan.
C'est ça.
Thank you.
Vous écrivez quoi sur vos petits papiers, Vima Laponce ?
J'écrivais le fait que, en fait, j'écrivais ayahuasca par rapport à la drogue, le fait que l'adrénaline, ça pouvait être de la drogue, le fait de ces endroits-là, en fait, hyper des Indiens, en fait, aztèques, de pouvoir se débarrasser d'une peine d'amour grâce à la ayahuasca. J'écrivais qu'il fallait parler de l'amitié de Simone Veil, de ce livre, parce qu'elle avait décrit, en fait, que c'était une puissance surnaturelle. Et du coup, j'écrivais ça.
Et vous, Charlotte Abramoff, c'est vers les îles Féroé que vous allez trouver un nouvel espace de surréalisme pour prendre des photos avec les habitants de l'île.
C'est ça. C'est un projet, en fait, qu'on est parti faire en juin 2017. C'est un projet, en fait, qui est né d'une idée de Sylvie Farr, qui est la manageuse de la chanteuse Angèle, pour qui j'ai fait toutes les photos et les deux premiers clips. Et en fait, c'est Sylvie, qui est une personne débordante d'idées et de créativité, qui m'a dit « Mais est-ce que ça te dirait de partir aux îles Féroé ?» Moi, je la regarde, je dis, c'est où, c'est quoi? Donc, je me renseigne un peu, et moi qui ai l'habitude de faire beaucoup des photos en studio, dans quelque chose de très maîtrisé, très mise en scène, où j'établis bien les choses à l'avance, c'était un peu un défi pour moi que d'aller dans un endroit, de sortir justement de ma zone de confort, et de partir à l'improviste. Et moi qui m'inscrivais dans une démarche un petit peu autour de la photographie de mode, c'est-à-dire de faire poser les gens, etc., avec un certain esthétisme, je me suis dit, puisque parfois je trouve qu'il n'y a pas trop de sens dans ces photographies de mode et que plus je grandis, plus j'ai envie d'un peu m'en éloigner, pourquoi j'irais pas photographier les gens tels qu'ils sont, avec leurs vrais vêtements, leurs vraies maisons, et garder un peu cet esthétisme, mais avec des vraies histoires derrière, et des vrais gens, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à la croisée du reportage et de la mise en scène, et du coup, les îles Féroé était un champ, un décor génial, puisque c'est un endroit magnifique, et que forcément j'avais ce rapport à l'insularité qui était dû à mon enfance. Et donc maintenant l'objectif, c'est d'aller dans différentes îles du monde, un peu rencontrer ses habitants, parce que c'est vrai que vivre sur une île, ça a quelque chose de très particulier, et de très à la fois coupé du monde, et en même temps on en fait complètement partie. Et c'est ainsi qu'on est allé sur des îles où il y avait parfois à peine 12 habitants, qui ont tous plus de 60 ans et qui, en 10 minutes, nous recevaient chez eux et nous faisaient le thé, les gâteaux, alors qu'on se comprenait pas forcément dans le langage. Et comme on a pu croiser des groupes de jeunes filles hyper lookées, avec la petite besace, la banane, comme elle est revenue à la mode, les Nike et Instagram. Et donc c'était assez intéressant de voir que ces deux écarts étaient réunis. Et comme on peut avoir des clichés de penser que vu que c'est loin et que c'est au milieu de nulle part, ils sont dans un autre monde, oui et non, quoi. Et c'était assez intéressant.
Et pour une photo de fin, vous les prendriez comment en studio, là, en photo, Charlotte Abramoff, Thiria Carivel et Vima Laponce? Vous les mettriez comment en scène?
Peut-être en train de tomber sur un lit super moelleux et hyper agréable.
Ah ouais.
La rilira, la rilira, n'amore va na tu bene, nessuno più te va bene, non c'è pensare. Occhi asciutta te, torna a cantare con me. La rilira, la rilira, l'amore passa come passo via.
On sera parti de la vie en danse pour allier tristesse à rigolade. Le beau livre de Charlotte Abramoff, Maurice, Tristesse et rigolade, est aux éditions Fisheye. Vima Laponce et Thyriac Arrivel viennent de sortir l'album Victoire Chose, extrait de la musique de leur spectacle Grande, qui sera en tournée à La Réunion les 29 et 30 mars au Théâtre du Champ Fleury. Danse Musique Rhône-Alpes, c'est Lou Gangloff et il sera le 19 avril au Trabendo en concert. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Tahar Bouklifa. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et c'est l'heure des nuits.
Non era come tu sonnava tu, n'amorata nata là, te pus passa non ta feli che vo fa se lo che chiagna. O tiempo va, se poscurda, piensa cantar la rima.